21e émission qui s'intitule La Bougeotte de notre ami Christian Cayol qui nous fait aujourd'hui vagabonder entre Cantal et Aubrac. Bonjour Christian.
Ouais, bonjour Francis, bonjour à tous.
Alors, avant d'attaquer, sur ta vidéo, j'ai vu qu'en fait tu avais filmé un maximum de vaches et de taureaux. J'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y en a pas une ou un taureau plutôt qui t'a coursé? Parce que vu comment ils étaient photographiés de près, il s'est passé quelque chose, c'est pas possible.
Ça pourrait se faire, je m'en méfie, hein, parce que très souvent il y a les taureaux, mais bon, je me suis mis souvent derrière les clôtures quand même. Hein,
Pas eu de problème particulier?
Non, Nadine, des fois qui me fait sursauter en me disant, quand j'ai le dos tourné, qui me dit « Attention, ils arrivent !» Alors, c'est pour rigoler, moi ça me fait pas trop, bon voilà, c'est assez marrant quoi.
Ouais, parce que ça c'est déjà arrivé, et moi le premier ça m'est déjà arrivé à faire courser par des taureaux,
il faut
être prudent quand même, voilà.
Oui, et puis surtout, en particulier, les salers, elles ont dû casser des vaches qui ont un sacré caractère, hein. On en voit sur la vidéo, ces fameuses salers rouges bordeaux, avec ces belles cornes en lyre là, avec les poils longs. Et puis aussi, sur l'Aubrac, la légendaire vache Aubrac. Alors elle est différente, hein, on ne peut pas les mélanger. Encore qu'il y a des salers un peu sur l'Aubrac et le contraire. Mais elle a un pelage plutôt froment avec des yeux maquillés de noir. C'est des vaches magnifiques, quoi. Hein.
Ouais.
Ouais, j'ai eu la chance de discuter avec des éleveurs, en particulier sur le Cantal. Et on voit la difficulté de mener des exploitations. Et ça nous laisse un goût amer, hein, parce que vraiment, le gars, c'était la dernière année qu'il avait son troupeau. Mmh. Et parce que, bon, ça ne fonctionne pas, quoi. Mais ça a été un grand moment. On est arrivé, il lâchait les petits veaux.
Ah, d'accord.
C'est des veaux qui avaient, je ne me souviens plus, parce que les images, je les ai faites début avril. C'est des veaux qui devaient avoir un mois. Ils n'étaient pas encore sortis, ils étaient restés sous la mer. Et là, il avait ouvert le hangar. Il les avait parqués, il avait fait un petit enclos de 30 mètres sur 20, et ils étaient tout fous.
Alors, oui,
ça saute partout, ça court, ça rentre, ça revient, ça va voir la mer, ça ressort. Enfin, il faisait une première sortie dans ce petit enclos. Il dit, si on les lâche, le prix pète tout.
Eh oui, ça se comprend. Ouais.
Après, il dit même, ils n'arrivent pas à retrouver leur mère. Enfin, alors, c'était un grand moment. On a passé au moins demi-heure ou trois quarts d'heure à s'amuser, à regarder ces veaux. Et à parler avec les éleveurs.
C'est des lieux voilà, qui sont pleins de pâturage, donc qui sont vraiment propices à l'élevage en fait, voilà, de vaches. Et...
Oui, et au fromage. Voilà.
Et au fromage aussi.
Alors, ouais. Bon, d'un côté, on a le salers, qui peut être tradition, si la vache est en estive et qu'elle ne mange que de l'herbe.
Bien sûr.
C'est un salers tradition, sinon c'est que du salers. Et si les vaches sont mélangées avec d'autres races que les salers, c'est du cantal. Mais actuellement, bien souvent, dans les troupeaux, on voit les taureaux sont souvent d'autres races. Parce que la vache salers en boucherie ne vaut pas bien cher parce qu'elle a très peu de viande. Alors, souvent, ils font des mélanges. Alors, d'après le gars, dans peu de temps, on n'aura plus de salers. Ou très peu.
Ouais, ou très peu, ouais.
Ouais.
D'accord, bon. Eh bien,
on
commence bien.
On commence bien.
Alors, la suite, c'est quoi? J'ai vu aussi que tu avais pas mal filmé de cascades, très sympathiques, donc beaucoup, dont une assez particulière qui se jette dans un gouffre. Tu peux nous en dire quelque chose ou tu veux le garder pour plus tard?
Oui, on va en parler. Avant, je vais présenter un petit peu la région.
Eh oui, déjà, peut-être.
Mais
oui.
Bon, oui, effectivement, c'est un pays de cascades, c'est un pays d'eau.
D'eau.
Effectivement, oui. Alors bon, on va commencer par le Cantal. Bah, bon, lui, pour le trouver sur la carte, c'est pas compliqué. Il suffit de regarder la météo. Souvent, le coin le plus froid de France, à l'Aubrac, c'est pas mieux non plus, parce qu'il peut neiger en altitude pratiquement d'octobre à mai.
D'accord.
Avec de hautes congères. Et il y a eu des fois, parfois, des gens qui se sont, des randonneurs, qui s'y sont perdus, qui sont même, il y a eu des accidents mortels de gens qui s'y sont perdus dans le brouillard, parce que c'est vrai que c'est des saisons plates pour se retrouver, il n'y a pas trop de repères, hein, c'est pas évident. Et sur l'Aubrac, il peut geler presque toutes les nuits de l'année, mais par contre, il peut faire aussi grand beau. Moi, j'ai eu cette chance de passer une semaine entre ces grandes étendues, Cantal et Aubrac, par temps extraordinaire, où j'ai pu faire voler le drone de nombreuses fois. On va voir beaucoup d'images sur ma vidéo, on va voir beaucoup d'images de ça. Alors, pour expliquer un petit peu la géographie et le relief, Eh bien, l'Aubrac, c'est un plateau qui est volcanique, mais granitique. Alors, on va rencontrer des murets de pierres rondes au milieu de coulées de basalte. Et parfois aussi, les cascades chutent par-dessus ces barres.
Ouais, c'est très esthétique sur ta vidéo. C'est,
voilà. Ouais. Et quant au Cantal, bon, lui, on en a déjà parlé parce que j'ai fait plusieurs vidéos et plusieurs, on en a parlé dans les émissions. C'est le plus grand stratovolcan d'Europe et qui fait 70 km de diamètre et sur lequel qui a déversé des coulées de lave un petit peu partout. Et souvent, ça forme des plateaux de coulées de lave que l'on nomme planèses et qui ont été érodés plus ou moins à l'époque glaciaire en laissant des promontoires. Alors, ce qu'on voit aussi beaucoup sur le Cantal, ce sont ces promontoires rocheux idéaux pour se réfugier et se défendre. Et d'une façon générale, que ce soit au paléolithique ou au néolithique, c'est une zone qui a toujours été très peu peuplée. Il a fallu attendre les Celtes, à l'époque du fer, pour coloniser un petit peu, puis ensuite les Romains. Mais c'est une zone qui a toujours été très peu desservie en voie de circulation. Ça l'a aussi protégé des invasions, les barbares, et ça l'a aussi protégé au Moyen-Âge de l'autorité du royaume. Et c'est toujours un petit peu le cas, mal desservi, et on circule sur des petites routes.
Ouais, complètement. Voilà. Mais malgré tout ça, on trouve quand même, je vois sur ta vidéo, des ruines de châteaux. Donc ça veut dire qu'il y a eu quand même des attaques ou des choses
oui,
comme ça,
non ? Oui, effectivement. Alors sur ma vidéo, on en voit quelques-uns. En particulier, le château de Ténières, ce sont des ruines du XIIe, avec un seul donjon circulaire. Mais on se rend compte un petit peu de sa puissance. D'autres, le château de Saillant, qui lui date du XIIIe. Il est posé sur un éperon basaltique et il trône au-dessus d'une cascade Babori. On en reparlera. Mais surtout, je vais vous parler d'une puissante seigneurie, puissante Moyen-Âge, non loin d'Aurillac. C'est l'histoire du vicomté de Carla. Carla, on ne connaît pas, mais à l'époque du Moyen-Âge, c'était la plus grande forteresse du sud de la France. On pourrait la comparer à Carcassonne à l'époque.
D'accord.
Et alors, elle était posée. Un plateau de roches basaltiques qui était habité depuis le néolithique, puisqu'il y a eu des fouilles qui ont été retrouvées, des traces de silex. Et ensuite, il s'est constitué un oppidum gaulois, puis ensuite un castrum à l'époque de Clovis. C'est son fils qui a mis la main sur ce castrum. Et en mettant la main sur ce castrum, il a mis la main sur l'Auvergne. Ensuite, ce site a servi de point fort à Pépin le Bref dans le conflit avec le duc d'Aquitaine. Et au XIe siècle, Carla subit le siège de Louis le Pieux, fils de Charlemagne. Ensuite, une des propriétaires héritières de ce site épouse un comte de Barcelone, et la forteresse devient au roi d'Aragon. Et par héritage, ensuite, ça va jusqu'à Charles Quint, qui installe sur ces lieux la plus importante commanderie templière d'Auvergne. Et ça se présente un plateau granitique d'une quarantaine de mètres de hauteur, pratiquement vertical sur tous les côtés, et le dessus complètement plat. On voit d'autres reliefs comme ça, par exemple le site de Ronesque. On retrouve exactement la même situation, un socle granitique qui dépasse une colline d'une hauteur, tout plat, avec en haut une chapelle ou des ruines de château. Ah. Ça, on le trouve très facilement dans ce secteur. Alors, que dire d'autre sur cette citadelle ? Le château était entouré de remparts et qui s'étale sur le plateau granitique, donc, qui surplombe la colline et le village, lui-même défendu par deux autres remparts. C'était très important. L'accès au château est dissimulé. Il faut faire le tour de ce socle basaltique. Et là, on trouve une faille. C'est un des seuls vestiges qui reste, qu'on appelle l'escalier de la reine Margot, en mémoire de la reine Margot de France. Et donc, dans cette faille, un escalier, bien sûr qu'on ne peut faire qu'à pied et pas à cheval, taillé dans la roche permet d'arriver, de monter sur cette plateforme. Alors, cette reine Margot, elle hérite de ce château de par sa mère. Donc, cette forteresse à l'époque de la reine Margot est puissante. Elle a des murs de 4 mètres d'épaisseur, mais elle apparaît comme une menace pour le roi, et notamment une histoire de complot. Alors, cette forteresse est détruite par Henri IV, qui met 50 hommes pendant 6 mois pour la raser complètement et faire rouler les pierres, les envoyer le plus loin possible pour pas qu'elles soient remontées. Entre-temps, les pierres ont été récupérées par le village pour d'autres constructions. Ah. Mais donc, elle a été complètement désossée.
Quel dommage.
Eh oui. Oui. Et alors, l'histoire continue. Et ce vicomté, il est donné par Louis XIII à la famille Grimaldi de Monaco pour services rendus et terres échangées. Et cette famille conservera le château jusqu'à la Révolution. Finalement, il faut attendre 1914 pour que le rocher soit racheté par la famille Grimaldi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste ? Il ne reste pas grand-chose. Sur le dessus, on peut deviner quelques rares fondations, quelques vestiges de murs. Heureusement, l'escalier n'a pas été démoli. Et puis, alors il fallait le faire, ça. La commune qui s'appelle Carla, c'est jumelée avec Brugnone d'Italie. Bon, il fallait oser quand même.
Ah oui, tout à fait.
Encore un mot sur la reine Margot. C'est donc la fille d'Henri II et de Catherine de Médicis qui s'est mariée avec Henri IV pour tenter de réconcilier les catholiques et les protestants. Seulement, le mariage y tombe mal. Et, 3 ou 4 jours après, c'est la Saint-Barthélemy et la reprise des hostilités. Bon, le mariage est un petit peu terni. Alors, je vais vous parler de Margot parce que ce quart-là lui appartient.
Ouais.
Elle est venue s'y réfugier puisque répudiée par Henri IV, ne pouvant pas avoir d'enfant,
voilà.
Elle s'est exilée pendant une vingtaine d'années, mais elle a vécu environ un an à Carla.
D'accord, ok.
Donc on va clore sur Carla, et je vais vous amener, et vous verrez sur ma vidéo, je vais vous amener à 2 écomusées, un qui est à Coltine, musée d'agriculture, et l'autre, ce sont des chaumières, les chaumières Granier, qui est à Nerviez, c'est au nord d'Aurillac. Et ce sont 2 écomusées, les chaumières sont magnifiques, c'est une association qui s'en occupe, qui vous donne une idée de la vie cantalienne au 19e siècle.
Alors avant de continuer, on rappelle à nos chers auditeurs qui peuvent nous rejoindre que vous êtes en train d'écouter donc la 21e émission de La Bougeotte qui aujourd'hui est sur le Cantal et l'Aubrac, donc émission présentée par Christian Caillol, et il va en profiter pour nous rappeler son site.
Alors le site c'est Rando VTT Vidéo, c'est là que vous pourrez retrouver ma vidéo et les X vidéos qui sont dessus, de tourisme et de VTT à la découverte de la France.
Voilà, pas notre pays.
On poursuit donc, je vous parlais de la vie cantalienne, en particulier au 19e, et vous allez retrouver des choses que vous avez un petit peu ici. La vie était en autarcie. Il fallait bien nourrir la famille avec une agriculture de subsistance au faible rendement. Heureusement, il y avait le jardin. Alors, les cultures traditionnelles, pommes de terre, choux, navets, haricots, oignons. Et dans les bois, on ramasse, on ne se gêne pas, les champignons et les châtaignes. Et dans les champs, on élève aussi les abeilles. Et on cultive les noyers pour avoir de l'huile. Alors, le pain, il est cuit dans le four du village. Mais on en voit partout. Nombreux fours ont été restaurés.
On en voit dans ta vidéo, il me semble.
Et oui, on en voit, bien sûr, on en voit, oui. Plusieurs. Ah, on ne voit pas que ça, vous voyez aussi le travail pour ferrer les bœufs.
Oui, d'ailleurs, il y en a un, est-ce qu'il ne s'en sert pas encore ?
C'était ma question. C'est possible.
Parce qu'il y en a un, il est tellement en état, et comme il y a beaucoup dans ta vidéo de vaches, de taureaux, donc je me pose la question si ça ne sert pas encore.
Oui, pourquoi pas. Oui, bon, pour les vaches, certainement, peut-être, oui. Ouais, enfin, beaucoup sont restaurés, et certains sont en pierre. Voilà. Ouais. Ouais. Alors donc, les fours, et chaque famille porte sa pâte, sont prêtes à cuire au four, avec une marque distinctive, bien sûr, pour passer. Voilà. Et le pain, à l'époque, il conservait parfois un mois, notamment en été. Et le pain blanc et le pain frais, on le gardera pour les grandes fêtes. Au repas, peu de viande, parfois de la charcuterie, un peu de lapin ou de la volaille. Et le braconnage est interdit, mais bon, ça améliore l'ordinaire.
Bien sûr.
Il y a aussi le jour où on tue le cochon. Et puis, ceux qui ont des vaches, ils portent le lait à la laiterie, au bureau l'été, pour fabriquer le fameux Cantal ou le Salers, voilà. Ouais. Et ceux qui possèdent un petit troupeau de chèvres font des cabécous. Alors tout ça, c'est quand vous allez à Coltine, au musée de l'agriculture, vous avez une petite vidéo, vous avez tous les outils, donc ça vous rapproche de ce que je suis en train de vous expliquer. Regardez les images et puis
faites
coïncider les deux.
Ouais. Voilà.
À la ferme, les travaux dépendent du temps, ils sont rythmés par les saisons. Et il faut aussi obéir aux exigences des bêtes. Alors, des labours, les semailles, les récoltes, les coupes de bois, il ne manque pas de boulot. Hein. Curage des fossés, taille de haies, empirage des chemins, et j'en passe, défumage de l'écurie, épandage du fumier, pas le temps de s'ennuyer.
Hein. Un travail à temps plein.
Oui, oui, oui. Les journées sont longues. Et puis, alors, il y a des métiers indispensables. Le sabotier. Alors, lui, il sait choisir dans la forêt quel bois il fabriquera les sabots pour qu'ils puissent durer. Et il va être capable de fabriquer 3 paires de sabots par jour.
Ouf.
Alors, vous verrez sur ma vidéo, vous verrez l'assortiment des sabots, les galoches, les chaussures du dimanche. Ouais. Vous verrez une petite image de ça. Le galochier, lui, fabrique des chaussures en cuir à semelle de bois. Bon. C'est un peu mieux que le sabot, mais bon, c'est pas souple. Hein.
Oui, c'est pas un bon tennis.
C'est un peu plus confortable. Et puis, alors, les deux, le sabotier et le galochier, ils seront remplacés par le cordonnier qui lui fabriquera les chaussures sur mesure, les chaussures du dimanche. Et avec le bois, le menuisier, il savait tout faire. Le tondelier, lui, il avait un savoir bien particulier, et c'était tout un art, mais il s'installait plutôt en ville. Il y a le pailleur de toit. Lui, il se servait uniquement de paille de seigle. Il a été remplacé par le couvreur de lauze ou d'ardoise. Il y a aussi le rétameur. Alors lui, très important parce qu'il était capable de réparer tous les ustensiles de cuisine. Et il y a le maçon, le tailleur de pierre. Ils savent travailler tous les matériaux du coin. La brèche, le basalte, la trachyte, l'andésite, tout au des roches volcaniques de couleurs différentes. Et puis aussi, il y a la tonte des moutons. Alors ça, c'est les femmes qui s'occupent de la laine. Il faut la laver, la carder. Et il ne reste plus qu'à la filer sur la quenouille, plusieurs brins de différents fuseaux pour la tisser.
Ah, bon, d'accord.
Il ne fallait pas attendre le tricot, il ne fallait pas être pressé.
Ah, voilà.
Et alors après, il y a le facteur. Lui, il arrive tous les jours à pied ou à ski. Ça peut arriver.
Ah ouais.
Eh
ouais.
Il apporte le courrier, les nouvelles du coin. Il boit un petit coup, la goutte.
Le café, le café.
Ah, mais il y a aussi, il y a le vannier.
Eh oui.
Eh oui. Il fallait bien les faire, les paniers, si ce n'était pas lui. Et les ruches. Et il y a le coiffeur. Voilà. Ben, souvent, c'était la coupe au bol ou la coupe militaire.
Hein. C'est vite vu.
Et puis, on y allait pour la communion ou les grandes fêtes ou le mariage ou la fête du village. Et la fête du village, d'une année sur l'autre, toujours à la même époque, il y avait aussi l'école porteur. Il faisait faire de bonnes affaires. Très bonnes affaires, surtout pour lui.
Ah ouais, oui, surtout.
Et le dimanche, on joue aux quilles, un peu. Et l'année passe, mais pas trop de divertissement, si ce n'est la fête religieuse du village, qui reste le moment de réunir la famille, de se distraire un petit peu. Alors, on va arriver aux cascades, puisque tu m'en as parlé au début.
Et voilà, voilà, et il y en a un peu partout.
Il y en a un peu partout. Alors, le Cantal, lui, il est très bien arrosé. Il ne craint pas la sécheresse. Pourtant, c'est un régime très irrégulier de précipitations qu'il reçoit. Et en plus, son sol volcanique ne retient pas l'eau et n'a que très peu de nappes de réserve. Donc, malgré tout, même s'il est très arrosé, il souffre un peu de sécheresse. Les eaux du Cantal, elles rayonnent vers de grands nombres de cours d'eau qui se collectent sur la Dordogne, le Lot et l'Allier. De son côté, l'Aubrac, lui, c'est un véritable château d'eau. Sur le plateau naissent de nombreuses rivières, en particulier le Lot, enfin, ou tout au moins les rivières vont au Lot, à la Truyère, ou à la Cologne. Alors, j'ai de très nombreuses cascades, de belles vues de cascades. Alors, la cascade du Saillant, le nom, vous verrez plusieurs cascades. Il y en a une qui s'appelle la cascade du Saillant. Elle traverse une barre de lave de 20 mètres de hauteur. Le ruisseau, il s'élance au-dessus d'Orgue et rebondit pour faire un deuxième saut. La cascade Babori est à côté du château Saillant qu'on a parlé il y a quelques instants. Elle tombe dans un cirque basaltique 30 mètres plus bas. Tout ça, c'est magnifique. Hein. Et puis, alors, la Faïtou. Alors là, celle-là est à 1000 mètres d'altitude. C'est une des plus hautes chutes du coin et elle tombe sur des orgues. On voit, j'ai fait des gros plans de ces cristaux d'orgues-là, de basaltique. Elle est majestueuse, elle est magnifique. Même, vous la voyez à 500 mètres, vous la voyez face à vous. Elle chute vraiment droit et on la voit de loin dans un paysage de prairie. Et puis alors, vous savez la cascade de Roc. Alors là, elle est au bord d'un panorama énorme. Elle est sur l'Aubrac. C'est un des plus beaux sites de l'Aubrac. Ouais. J'ai fait voler le drone là aussi. Il y en a beaucoup. Vous avez aussi une puissante chute, la Roucoule, la rivière se bute sur un verrou glaciaire, sur le pas de Céré, ça s'appelle, et ça a creusé de belles verticales. Ah. On voit ça aussi. Et puis, cascade de Sastre, dans la vallée de la Chélade. Moi, j'y étais au mois d'avril, en plus de ça, c'est la période où la fonte des neiges.
Et voilà, donc, où là, c'est
beau,
humide.
Ouais. Oui, oui, c'est beau. À part ça, eh ben, l'Auvergne, c'est un pays de dolmens, une quarantaine de dolmens, mais quand même, une dizaine de menhirs seulement. Ils ne sont pas tous bien conservés. Finalement, c'est peu par rapport à d'autres départements comme l'Aveyron, où il y en a 700 ou 800.
Oui, voilà. Hein, bon. Et qu'on rappelle que l'Aveyron, c'est là où il y a le plus grand nombre de menhirs en France.
Exactement.
Il ne faut pas l'oublier.
Oui, oui, oui. Alors par contre, il y a une originalité, là il faut être attentif, une originalité qui est peu courante, j'en connais très très peu en France. Ce sont les cases de Coteuge. Ce sont des vestiges d'habitation répartis sur 4 hectares. Ce sont des vestiges de construction faites de grosses pierres brutes posées sans ciment et semi-enterrées. Le tout est ceinturé par une muraille de faible hauteur, elle aussi sans ciment, élevée sur un talus de terre battu. C'est une véritable ville qui s'appelle Coteuge. C'est un terme d'origine gauloise qui signifie clairière cultivée. Elle a été abandonnée suite à un incendie. Ce sont les vestiges de choses vitrifiées qui ont permis de l'affirmer. Donc victime d'un incendie, mais aussi victime de la peste noire vers le milieu du XIVe. Mais aussi, une des causes a été la guerre de Cent Ans. En fait, les chercheurs savent que très peu de choses sur ça. Le village est daté de façon certaine du Moyen-Âge, mais rien ne dit qu'il n'ait pas été habité avant cela. Il n'y a aucune église, aucun cimetière. Or, à cette époque, la religion prenait une place importante. Alors, c'est pour le moins bizarre, on se dit, c'est quand même surprenant que ça n'ait pas été habité antérieurement. Peut-être que ça correspondait à une époque, à une période où on procédait à la crémation des corps, donc bien antérieure au Moyen-Âge. Et puis, il a été trouvé une hache en silex, des fragments de tuiles romaines. Ça donne la conviction que, effectivement, ça pouvait remonter à la plus haute antiquité. Certains historiens pensent que Vercingétorix serait venu recruter des soldats, on n'est pas loin de Gergovie, mais où allait-il ? Personne ne le sait. Cependant, le fait qu'il soit venu laisse supposer que le territoire était relativement peuplé. Voilà. Ah, ça, il faut le voir. Hein. Et alors, c'est un lieu peu connu, pas du tout balisé. On y arrive par une petite route. Vous trouverez ça sur Internet, hein, les cases de Coteuge. Mais vous ne trouverez pas grand-chose comme détail. D'accord. Et ça, des sites comme ça, des vestiges de cette époque-là, gauloise certainement, peut-être avant, c'est très, très rare. Toute la partie supérieure des habitations n'y sont plus, obligatoirement, puisque c'était du bois, des feuillages... Tandis qu'il ne reste que ces grosses pierres. Voilà, si vous passez par là, allez-y, parce que c'est très rare en France. Hein. Donc, que dire de plus ? Eh bien, on est face à un tourisme orienté vers la nature. C'est une des principales forces de cette région. Il est basé sur une grande variété d'activités de plein air, comme la randonnée à pied ou en VTT. En particulier, vous avez le chemin de Saint-Jacques, toujours excessivement fréquenté, qui en est la preuve et qui traverse tout ça. Alors, tu vas me poser la question ?
Une particularité, effectivement, sur cette vidéo, les vaches ont remplacé le VTT ?
Ou les vététistes ? Oui, je l'attendais, puisque je t'ai fait une... La transition arrive, oui, effectivement. Les vaches ont pas remplacé. Mais, effectivement, je n'ai pas d'image de VTT, pour la bonne raison que, vous savez, je me greffe toujours sur... une organisation que je trouve de randonnée. Je ne fais pas du VTT tout seul, montrer des images de VTT seul. Et donc, je n'ai pas trouvé, aux dates qui m'arrangeaient, je n'ai pas trouvé de randonnée.
Ouais, de compétition VTT ou de
compétition
randonnée.
Et pour que je puisse faire des images et vous les proposer. Donc, pour une fois, il n'y aura pas d'image de VTT, mais c'est l'occasion aussi de vous poser la question. Est-ce que ça vous manque ? Ou pas.
Ou est-ce que ça peut être la transition de nouvelles vidéos sans VTT, que des images de régions touristiques mais insolites que l'on trouve
pas
ailleurs.
Alors, qu'en pensez-vous ? Ben, écoutez, c'est l'occasion de m'envoyer un petit mot sur Radio Galaxie ou sur mon site. Vous trouvez
voilà, tout à fait.
Moyen de
communiquer. Toi, à quelle période tu conseillerais qu'on aille visiter ce coin, le Cantal et le Brac ?
Écoutez, c'est une histoire de météo, parce que l'hiver c'est différent. Hein. Ouais. Je pense que j'aimerais aussi aller le visiter en hiver, ces grandes étendues avec de la neige.
Ça doit être beau aussi.
Moi j'y étais début avril, je suis bien tombé, il y avait beaucoup d'eau dans les cascades. je vais vous dire oui, fait, allez-y là. Et puis il n'y a pas encore trop, c'est pas très peu, il n'y a pas trop de monde. Mais enfin, ouais. Avril, vous avez. Sur le chemin de Saint-Jacques, il y a beaucoup de monde malgré tout. Hein. Ah ouais. Quand vous allez à Aubrac, c'est un chape, un que le de, ah ouais. de randonneurs avec ouais. leurs coquilles. Donc, comme partout, il n'y a pas de moment propice, il faut bien tomber. Voilà. Faites d'accord, comme moi, il n'y a pas que.
Voilà, pas que. Mais c'est vrai que, bon, on a cet avantage en France, c'est que d'un côté, on a des saisons, donc ça veut dire à chaque saison, la région peut être belle, et en même temps, on a des régions qui sont toutes différentes les unes aux autres.
Bien sûr, si vous y allez à l'automne, vous allez trouver des couleurs extraordinaires aussi. Ouais, donc, ouais. Et par contre, ce qui est bien, c'est d'avoir les vaches dans les estives.
Oui.
Voilà. Donc, il ne faut pas y aller trop tôt ou trop tard. Voilà. Sinon, elles vont être enfermées dans les.
Ouais, ouais, complètement aussi, voilà.
Ouais. Ouais.
D'accord. Et pour finir.
Et pour finir.
L'aquarelle de.
Voilà, l'aquarelle
Nadine.
De Nadine. Cette fois, j'ai choisi, on en avait fait plusieurs, bien sûr. J'ai choisi quelque chose de caractéristique, un buron sur l'Aubrac, ouais. avec ses gros rochers de granit, hein, puisqu'on trouve sur l'Aubrac du granit et du basalte. Là, ce sont des gros rochers de granit.
Et tu peux nous rappeler ce que c'est un buron ?
Ces bâtiments d'estive où les bergers se mettent à l'abri, y habiter, plus maintenant, et fabriquer le fromage. Voilà.
Bon,
et pour terminer, bon, mais comme je dis à chaque fois, bougez.
Mais bougez
en France.
Voilà. Merci.
À bientôt.
Merci Christian.
Francis.